Je suis avec Dimitri Armand au Crayon Nantes, Festival de bande dessinée de Nantes. Bonjour.
Bonjour.
Donc, sur Salamandre, ce qui m'a marqué le plus, c'est une fois la lecture achevée, le fait qu'il y ait en fait autant d'informations qui soient données. Il y a beaucoup d'éléments qui se mettent en place dès un premier tome qui pourtant ne fait pas 200 pages. Ça s'est construit comment au niveau du scénario et est-ce que tu as participé toi à l'élaboration ou est-ce que ça t'a été donné entre guillemets clé en main par Thomas Chélian?
En fait, sur le tome 1, j'ai pas du tout participé au scénario. C'est comme pour Angor, en fait, j'ai vraiment suivi le scénario à la lettre sans vous apporter forcément grand chose. Bah, justement, ce qui t'a étonné, c'est un peu un défaut qu'on cite sur ce bouquin pour le lectorat moyen, c'est justement qu'il y ait trop d'informations. Parce que je pense que peut-être à cause de mon style de dessin, les gens s'attendaient à un album comme Angor, c'est-à-dire très simple à lire. Mais sauf que là où Angor, c'est plus un album popcorn. Enfin, sympa à lire, etc. Là, c'est vraiment plus, faut vraiment se mettre dedans. Il y a un univers qui est très très riche. Et je pense que le problème, c'est que c'est une intrigue qui aurait peut-être dû être découpée sur deux tomes ou simplifiée pour le grand public. Mais c'est vrai qu'il y a une énorme quantité d'informations à ingurgiter dès ce tome, quoi.
En même temps, c'est ce qui est plaisant. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a plu, parce que justement, on n'est pas obligé d'attendre encore 6 mois ou 1 an pour connaître la suite. Ça oblige effectivement à être attentif. Sur le dessin, du coup, comment ça s'est fait? T'as pas eu des fois des impressions d'être trop pressé sur les cases, ou t'aurais voulu justement rajouter plusieurs passages plus longs, que ce soit au niveau de la relation entre la salamandre et puis l'initié qui maîtrise les tempêtes, ou sur la scène justement d'attaque du devin?
Bah ça, en fait, je m'en rendais pas compte justement sur le tome 1, comme j'exécutais entre guillemets le dessin par rapport au scénario, et je m'en rends beaucoup plus compte maintenant, où je me mets plus à réfléchir aux mises en scène ou vraiment aux longueurs qu'on peut apporter qui peuvent être importantes pour la narration. Et sur le tome 2, le scénario est de toute façon un petit peu plus aéré, c'est-à-dire que le 1 est beaucoup basé sur des voix off, des flashbacks, etc. Le tome 2 est un petit peu plus classique au niveau de la narration, donc je pense que le lecteur qui va acheter la suite s'y retrouvera peut-être un petit peu plus. Là où c'est vrai que le 1, ça apporte beaucoup de notions et on n'a pas forcément d'espace pour dessiner les scènes comme on veut, tout est assez rapide. Et je pense que c'est peut-être le petit défaut au niveau narratif, c'est qu'on passe d'une scène à une autre beaucoup trop vite, je pense. Ce qui peut être bien sur des scènes d'action ou des scènes qui vont vite, mais là, il n'y a pas vraiment de temps de pause. Du coup, on n'a pas trop de recul sur l'album, quoi. Tout s'enchaîne très très vite. Et je pense que ça peut être un petit peu dur à la lecture parce que, entre guillemets, de nos jours, c'est vrai que les BD comme ça, grand public, elles sont très simples à lire. Ça va de A à Z sans trop se poser de questions, quoi. Donc voilà. Maintenant, niveau dessin, en tout cas, c'est ce qui me... Enfin, par rapport à Angor, où c'est plus du plaisir, entre guillemets, facile, là, ça m'apprend plus, parce qu'il y a vraiment des notions plus importantes, des sentiments divers, des cadrages, vraiment... Parce qu'en fait, au départ, Thomas Chélan, le scénario, me fait un prédécoupage qui me suggère. Donc moi, maintenant, sur le tome 2, je me mets à changer, parce que j'ai plus une vision... qui s'affine un peu de la narration. Mais du coup, ça m'a vraiment obligé à travailler sur des points de vue que j'aurais pas utilisé moi-même. Et par exemple, je pense qu'on voit des cadrages ou des cases complètement différentes d'Angor, où la narration est beaucoup plus classique, traditionnelle, avec 3-4 strips, 3 cases par strip. Et... Donc c'est un album, disons, très enrichissant à faire, en tout cas.
Sur la façon de dessiner, est-ce que tu as eu recours un petit peu à l'infographie, parce qu'il y a des... ou est-ce que c'est juste au niveau des couleurs qu'on a un rendu comme ça?
Alors non, justement. En fait, mes deux tomes 1, donc celui-là et l'autre, mais bon, là on parle de celui-là en l'occurrence, tout est fait sur informatique. Enfin, mes planches, elles sont crayonnées traditionnellement, mais elles sont scannées et ancrées sous Photoshop. Mais pour le tome 2, là j'ai recommencé à faire des ancrages traditionnels au pinceau. Disons, c'est une histoire dans laquelle je me sens vraiment impliqué. J'aime vraiment l'histoire, donc j'ai vraiment voulu aller au-delà que ce que je faisais déjà. Donc du coup, là je pars vraiment au pinceau sur des grosses planches et donc dans un style qui va être encore un petit peu plus réaliste. Et donc voilà, c'est pour ça que cet album en fait m'apprend beaucoup, c'est que j'essaie vraiment d'essayer des nouvelles techniques à chaque fois pour aller vers ce qui peut être le plus expressif possible. Mais ce tome 1 est entièrement fait donc par informatique et le tome 2 lui sera, je pense, différent. Et je suis content parce que l'éditeur me soutient dans cette démarche, parce que là sur le tome 2 par exemple, la planche 1 est déjà très différente de la planche 15 par exemple. Et là où ça a un petit peu fait peur chez Soleil, chez Lombard, je pense qu'ils me soutiennent vraiment dans ma démarche personnelle, quoi.
Au niveau de la morphologie des personnages, ça a été discuté aussi avec le scénariste. Est-ce qu'il avait déjà une idée assez particulière de comment tu devais dessiner un tel ou un tel?
En fait, ça, c'était très agréable avec Thomas, parce que, donc le scénariste, Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui a une vision très précise de ce qu'il attend, mais qui en même temps est très ouvert à aller sur de nouvelles voies si ce qu'on lui propose est intéressant. Et donc du coup, oui, il m'a vraiment proposé des choses de base. Moi, après, j'ai refait en fait ce qu'il m'a proposé à ma sauce. Ça lui a plu. Donc du coup, il y avait une vraie collaboration à ce niveau-là qui était sympa et c'était plaisant. Après, ce que je regrette, c'est que forcément, comme c'était mon premier album, les personnages se ressemblent un peu tous. Enfin, forcément, s'il y en a un qui a les cheveux longs, un noir, une fille, donc on différencie. Mais je pense que si j'abordais ce nouveau tome maintenant, j'apporterais vraiment plus de différences physiques, beaucoup plus fortes. Mais bon, je pense qu'on les reconnaît quand même tous les uns par rapport aux autres.
Toute l'histoire t'a été révélée par Thomas Chélian, ou est-ce qu'il est encore en train d'écrire, on va dire, des épisodes
Alors techniquement, quand j'ai signé, il avait déjà écrit les 3 tomes. Donc ça, c'est quand même super plaisant de savoir où on va, comment ça se termine, etc. Le souci, c'est que le tome 1, comme il a été pas mal décrié justement à cause du scénario qui était apparemment pour les gens trop complexe, il y a eu des simplifications vraiment nécessaires sur les tomes suivants, donc il y a eu une réécriture. Mais disons que la trame principale, je la connais, et ça va mal finir.
Bah, vu le propos, puisque pour raconter un petit peu le début, on se retrouve sur un futur proche, et en 1830, la paix a été imposée au monde entier, ce qui, dans ce futur proche, se révèle être une véritable catastrophe économique, et les hommes ont tendance à vouloir revenir vers des temps plus belliqueux. Donc on se doute que, vu comme ça commence déjà à bien bien s'accrocher et qu'il y a déjà quelques morts à la fin du premier tome, la fin ne peut être que, pas peut-être apocalyptique, mais en tout cas bien bien guerrière.
Ouais, ça va saigner, ça va bien saigner. Mais non, j'ai bien aimé en plus parce que, enfin, là sur Salamandre, j'avais vraiment lu le scénario avant de signer. Pour idée, par exemple, sur Angor, j'ai signé et on m'a donné un scénario après. Là, j'ai vraiment lu le scénario avant et ça m'avait vraiment plu parce qu'il y avait justement tout ce côté économique, les conséquences de cette paix mondiale, etc., qui étaient intéressantes, mais le tout passait vraiment par les sentiments des personnages. Donc, à aucun moment, on était largué dans un truc qui était peut-être hors de propos, parce que comme c'est quand même une BD, on va dire, de magie, d'action, etc., je sais pas s'il aurait été bienvenu de tout centrer sur le côté économique. Mais là, c'est bien que ça transparaisse par les personnages, je trouve.
C'est plutôt une influence, on va dire, américaine au niveau de l'histoire et du dessin, du coup, ou pas? Parce qu'on se retrouve avec donc des personnages qui ont des pouvoirs magiques, qu'on pourrait, en grossissant le trait, un peu rapprocher ça des super-héros. Il y a toujours une action bien, bien tendue. Et en même temps, il y a ce côté, on va dire, sentiment qu'on retrouve plus dans la BD européenne.
Bah, je pense que donc Thomas, niveau lecture, et moi en termes de lecture et donc de dessin, on a vraiment des influences très très diverses. Je sais que moi, j'ai toujours lu de la BD, du manga, du comics de manière générale. Lui, pareil, je pense qu'il a quand même une influence comics, parce que je sais que ses découpages de base sont vraiment, enfin, avec des grandes cases, des bulles dans tous les sens. Il y a un côté assez comics au niveau technique, quoi, de découpage. Mais je pense qu'on essaie de s'inspirer un peu de tout. Mais quand tu parles justement de super-héros, je pense que c'était un des soucis aussi de la BD pour le public, c'est qu'on nous a pas mal dit qu'on s'attendait à une sorte de BD de super-héros. C'est-à-dire surtout après Heroes ou des séries comme ça, on s'attendait à un des super-héros un peu réalistes. Et donc les gens se sont pas du tout retrouvés face à ça en fait, parce que c'est moderne, mais il y a des notions très héroïque fantasy avec les cercles qui créent la magie, etc. Et je pense que ce mélange de genres a peut-être pu désorienter les gens en fait. Moi je trouve ça dommage parce que je trouvais ça justement plus riche en fait, mais... Donc voilà, je pense qu'on a vraiment des influences très diverses et qui se ressentent là au dessin et au scénario finalement.
Donc tu le mettrais quand même plus en, on va dire, fantasy urbaine que action fantastique.
Ouais, je pense que ça le définit bien.
Il y a une case qui revient 3 fois, une toute petite case de rien du tout, j'allais dire, avec un loup-garou qui marche vers un château. On sait pas trop ce que ça fait là. Est-ce que c'est un clin d'œil qui reviendra après et il fallait être attentif, ou est-ce que c'est une signification que j'aurais loupée du coup?
Non, alors du tout. En fait, justement, c'est ça aussi qui peut perturber les gens, c'est qu'il y a pas mal de petits clins d'œil comme ça qui sont en fait une annonce de la suite. Parce que le scénario du tome 1 au tome 3, tout est vraiment construit. Tout a une résonance, etc. Ce qui peut perturber sur un album BD, comme on attend un an, justement, jusqu'à la suite, on a peur qu'il y ait des choses qu'on n'ait pas compris. Et en fait, ce personnage, donc je pense qu'on l'explique à un moment donné, c'est que l'héroïne, Ezan, a une aventure avec lui dans le passé. Et c'est un des personnages principaux du tome 2. Donc non, c'est bon, t'as tout compris, t'as rien raté, c'est bon.
Tu t'es fait un petit peu plaisir sur les personnages qui sont de temps en temps dessinés en arrière-plan. Il y a un petit Darth Maul qui s'est glissé dans un petit coin. C'est comme ça, un petit truc pour voir si les gens justement passent du temps à décortiquer ou ça se fait comme ça sur l'instant. Enfin, je veux dire, c'est des références importantes ou...
Je vais un peu faire réponse normande, mais il y a un peu de tout en fait, parce que d'un côté c'est le comme il faut faire des gens derrière et que sur le coup on sait pas trop quoi faire, on pense à des trucs qu'on aime bien et puis on les insère. Il y a aussi ce côté, oui, les gens qui vont être plus attentifs au dessin, ils vont pouvoir ça, donc c'est vraiment, enfin c'est du bonus un peu, c'est naze, mais je veux dire, ça peut être rigolo pour les gens qui regardent un peu plus, et c'est surtout des petits clins d'œil comme ça.
Le personnage qui est le plus attachant pour toi?
C'est chaud parce que dans cette BD il y en a vraiment beaucoup. Je pense que Rogue c'est celui que je préfère parce que le fait qu'il ait comme ça cette double apparence de vieille japonaise cramée et de démon Oni, et en même temps c'est vraiment une grosse baraque, il est toujours un peu blasé, enfin il est assez intéressant. Mais j'aime bien Stockett aussi, le vieil agent un peu désabusé. Je dirais Rogue, je pense, quand même en personnage favori.
Et celui que tu as le plus de plaisir à dessiner? Le même ou un autre?
Non, Rogue aussi en fait. Il réunit tout.
Quelle est la bande-son que tu écoutais éventuellement en dessinant Salamandre ou que tu conseillerais d'écouter en lisant Salamandre? Parce que tu écoutes pas mal de choses variées. Donc,
Ouais, en fait le problème c'est que c'est comme pour l'autre, je sais pas du tout. Enfin, j'écoute de tout, donc ça dépend vraiment des humeurs, des ambiances, de ce qu'il y a à dessiner. Donc, ouais. Réponse de merde, mais je pense que c'est à chacun de se faire sa propre bande-annonce selon les émotions qu'il peut ressentir en lisant. Voilà.
Il y a une date déjà qui commence à se dessiner pour la suite?
Oh mon dieu, non. Non, j'ai pas la date en tête. Le plus tôt possible serait le mieux évidemment, mais là j'en suis à la page, je crois, 17 du tome 2. Sachant que j'ai pas fait les 10. Donc ça fait 16 pages de fait. Donc voilà, non, j'ai pas de date précise encore.
T'as pas fait la 10 parce que tu dessines, j'allais dire, dans le désordre, ou comment ça se fait ça?
Mais en fait, non, je m'étais dit que sur les tomes 2, je dessinerais tout dans l'ordre pour être un peu ordonné, mais c'est plus fort que moi, je suis bordélique. Et en fait, non, c'est que sur la page 10, sans faire de spoiler, il y a une scène en fait sur la Tour Eiffel. Et la Tour Eiffel a dessiné dans tous les sens, c'est pas le truc le plus abordable. Donc j'ai un petit peu esquivé le problème en fait. Mais je la ferai un jour quand même, pour pas qu'il manque une page dans l'album.
Quelque chose que tu venais de nous dire en plus, soit à propos de Salamandre ou à propos d'autres choses, si tu as d'autres projets en cours
Bon, en fait, la déception de que Salamandre marche forcément moins bien pour l'instant que l'album Soleil, puisque Soleil, il y a eu la promo qui va avec et tout ça. Parce que je pense que même si Salamandre a évidemment de gros défauts, que ce soit en dessin ou en scénario, il a vraiment. Enfin, je pense qu'il est très méritant au niveau scénario d'essayer d'imposer ça dans de la BD grand public. Donc j'aime bien essayer de faire quelque chose de grand public, mais d'y apporter peut-être quelque chose en plus, une complexité qu'il n'y a pas dans les BD grand public classiques. Donc c'est un appel aux lecteurs, venez acheter Salamandre en grand nombre.
Vous ne serez pas déçus, au contraire, justement, moi c'est ce qui m'a plu, le fait d'avoir autant d'informations. Merci beaucoup, et bonne continuation.
Merci à vous.